L'interview Maïmo, Corentin Brabant sur Radio Imo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview. Alors aujourd'hui nous allons parler maîtrise des consommations, sobriété et qualité de service dans l'habitat. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Sirex, président d'ISTA France. Bonjour Laurent.
Bonjour Corentin.
Alors déjà merci d'être avec nous et surtout merci de nous accueillir dans tes locaux puisque nous sommes actuellement au siège d'ISTA France à Massy. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'ISTA, on va parler de l'entreprise, mais on va d'abord parler de toi un petit peu Laurent, parce que on sait et on voit tu es très présent en tant que représentant d'ISTA France et nous on aimerait bien parler un petit peu plus de toi. Dans le cadre de ton parcours, tu es ingénieur, tu as fait l'ENSAM, c'est ça?
Oui, tout à fait, j'ai fait l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers et Mathsup, MathsP avant, je suis un scientifique au départ.
Un bon scientifique mais très ouvert. Et tu as fait le début de ta carrière dans l'industrie et le service. Enfin, tu as toujours été dans l'industrie et le service. Tu as commencé chez Schlumberger.
Tout à fait. Oui, j'ai commencé chez Schlumberger. Et j'ai eu des parents qui sont des industriels aussi. Donc,
voilà, tu as été baigné dedans depuis que tu étais tout petit. Et tu es arrivé chez ISTA en 2005. Où tu as pris la direction générale et tu en es devenu le président depuis 2009. Alors, quand même, sacré palmarès, mais tu n'as pas qu'un palmarès entrepreneurial. J'ai cru comprendre que tu as eu aussi une carrière de sportif de haut niveau. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Tu peux nous parler un petit peu de ça?
On peut en dire quelques mots, oui, effectivement. Oui, ça fait partie de moi, très clairement. J'ai une famille qui est très sportive, et donc depuis toujours, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ski. J'ai commencé le ski très jeune, j'ai fait 10 ans de compétition, et je me suis arrêté en équipe de France B. Donc voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions, mais ensuite, en rentrant MathsP, j'ai pas pu continuer.
En descente, c'était en quelle...
Oui, en descente, en discipline de descente. Okay. Voilà, mais j'ai fait bien sûr toutes les disciplines, hein, comme tout skieur au début de sa carrière, mais voilà, plutôt passionné de descente. Et puis ensuite, j'ai aussi fait 5 ans de BMX. J'ai été champion de France de BMX. J'ai été finaliste au championnat du monde aux États-Unis à Dayton, qui était les premiers championnats du monde de BMX. Donc voilà, je suis un passionné de ces sports, on va dire,
extrêmes.
Un peu extrêmes. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je fais toujours de ces sports. Et en particulier, je fais beaucoup de ski, beaucoup de ski hors piste. Je continue à faire de la descente en VTT, quelques compétitions de descente en VTT, qui est un peu un mixte entre le ski et le BMX.
Et t'as fait le BMX après avoir fait du ski ou comment?
En même temps, c'était sur la fin de ma carrière de ski. Voilà, c'est au moment où le BMX est devenu un sport assez connu. J'ai été sponsorisé, donc j'ai démarré ma carrière comme ça. Très rapidement, en faisant une première course que j'ai gagnée, puis j'ai été sponsorisé par une équipe italienne au début, Cinelli, puis ensuite par une équipe américaine, Skyway, qui m'avait vu aux États-Unis où j'ai gagné toutes mes courses sauf la finale où je suis tombé en finale. Donc j'ai été remarqué et j'ai été sponsorisé par une équipe américaine. Et c'est important, oui, effectivement, dans ma carrière et dans mon rôle de leader, forcément, parce que la compétition, on apprend beaucoup de choses. On apprend d'abord de ses échecs, mais on apprend aussi que finalement la ténacité permet de réussir de beaux résultats. Et je pense que extrêmement, en termes de valeur, c'est extrêmement fort.
Et l'entraînement, le travail,
exactement.
La répétition.
C'est beaucoup de travail. Et quand en même temps on fait des études et qu'il faut s'entraîner, ça demande une grosse discipline. Voilà, c'est les sports effectivement à risque et les sports un peu acrobatiques, mais il faut énormément de discipline pour ne pas se blesser et pour faire ce sport et continuer aussi à faire ses études. Donc oui, je pense que c'est une bonne école de la vie.
Et, tu t'es posé la question à un moment de te dire. Études, sport oui. De haut niveau, j'en fais ma carrière, j'en fais ma vie.
Oui, tout à fait. Ouais. J'avais une proposition pour rentrer professionnel en BMX par une équipe américaine. Et j'étais en terminale C à l'époque. J'allais rentrer en maths sup. Donc j'ai pas mis longtemps pour me décider, mais effectivement, ça faisait partie des possibilités.
Ouais. Mais pas de regret parce que tu fais quand même une belle carrière dans le monde de l'industrie et du service. Et en même temps, tu arrives à continuer à allier ta passion au quotidien, quoi.
Oui, tout à fait. Non, j'ai pas de regrets. Et puis, je suis quand même aussi très très passionné de management de manière générale. Et je trouve que en étant leader, en étant patron d'une entreprise, on a aussi toutes ces rencontres humaines très fortes. Et ça fait partie de moi. Et je regrette pas du tout mon choix.
Et être patron, c'est aussi s'entraîner comme un sportif de haut niveau, quoi.
Oui, ça demande effectivement aussi de l'entraînement et de la discipline, bien sûr.
Top, ben maintenant nos auditeurs en savent un petit peu plus sur toi, ravi d'avoir pu creuser un petit peu sur ce sujet. Je te propose qu'on parle d'ISTA à présent, d'ISTA France. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu aujourd'hui les métiers d'ISTA, ce que vous faites au quotidien?
Alors oui, ISTA, on accompagne les copropriétés dans la gestion de l'eau et du chauffage collectif. Ce que l'on fait, c'est on installe en fait des appareils qui permettent d'individualiser les consommations d'eau et de chauffage. Et l'objectif étant de faire des économies aux occupants et de faire en sorte que les immeubles et les copropriétés qu'on gère soient bien gérés, ou dans lesquels on peut optimiser l'eau et on peut optimiser aussi le chauffage. Voilà, ça c'est notre métier. C'est un métier quand même de proximité, puisque en fait ça va consister d'abord à être capable de venir installer ces appareils dans les logements, ce qui est pas toujours, ce qui est un métier très particulier.
Dans les gaines techniques, ouais, voilà. Dans les logements.
Ouais, non, voilà, c'est assez souvent dans les logements, notamment pour le chauffage et la répartition de frais de chauffage. Donc, c'est un vrai métier de proximité où on a nos équipes techniques, hein, qui près de 400 techniciens qui réalisent ces installations partout en France. ISTA, on est présent partout en France. On a 50 implantations géographiques, donc dans toutes les grandes villes. Et donc on propose ces services qui commencent par effectivement installer des appareils, etc. Mais derrière aussi, bien entendu, de les suivre, de réaliser les décomptes individuels, de les transmettre à nos clients, les syndics, pour qu'eux-mêmes puissent réaliser leurs services,
faire la répartition. C'est combien de décompteurs, en tout cas eau et chauffage, sur le territoire français ou peut-être dans le monde?
Alors dans le monde, ISTA globalement, on a plus de 50 millions d'appareils, oui, dont 40 millions sont connectés. Et en France, on est au-delà de 6 millions d'appareils, ouais, dont plus de 4 millions qui sont connectés.
Ouais, qui relèvent tous les jours, du coup, voilà, les données.
Exactement.
Du quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a aussi invité à réaliser un baromètre de l'eau, à travailler un petit peu cette donnée. Tu peux nous expliquer, hein, parce que comme ISTA, vous êtes une entreprise très engagée, vous avez fait un baromètre de l'eau. Tu peux nous expliquer ce que vous en avez fait et pourquoi est-ce que vous avez fait cette analyse?
Alors oui, ça partait d'un... Bon, d'abord, dans notre profession, nous sommes leaders. Nous avons donc, comme je le disais, pratiquement 4 millions d'appareils connectés, 6 ouais, millions d'appareils en tout. On a effectivement près de 100 000 immeubles connectés. Donc notre responsabilité, quelque part, notamment sur les notions d'eau et de chauffage, était aussi de pouvoir, au travers de ces données, finalement... comprendre les grandes évolutions de notre société et comprendre de quelle manière nous-mêmes on peut encore améliorer notre service pour faire encore plus d'économies. Donc, partant de cette idée et partant aussi du fait qu'on ait tant d'objets connectés tous les jours, et notamment, il faut quand même avoir en tête qu'on a pu le faire sur plus d'un million de logements dans toute la France, donc qui sont très représentatifs, dans toute la France, dans lesquels on relève les consommations d'eau chaude et d'eau froide tous les jours, ouais, ce qui est quelque chose qui est unique en fait, ouais, puisque les distributeurs d'eau ne peuvent pas faire ça. Et donc, au travers de ces données et de cet observatoire, l'idée, c'était une fois par an de pouvoir observer ce qui se passe en France. Est-ce qu'on consomme plus? Est-ce qu'on consomme moins? Comment se passe la consommation d'eau chaude et d'eau froide? Voilà, est-ce qu'elle baisse? Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'il y a des différences suivant les régions? Combien est-ce qu'on a de fuites? Et finalement, quel est l'impact des nouvelles technologies sur la diminution des fuites, sur l'arrêt finalement de ces fuites et sur la maîtrise des consommations au sens large? Donc, grâce à toutes ces datas, on peut démontrer des choses assez exceptionnelles. Ouais. Par exemple, lorsque l'on met les nouvelles technologies en œuvre, la télérelève et de la détection de fuites, par rapport à des systèmes, si on a un comptage standard avant, on sait qu'en moyenne, on fait plus de 8% d'économies supplémentaires. Ouais. Donc on voit que quand on met en place des informations régulières et quand on a des informations ciblées sur les fuites, en fait, on fait faire des économies. Et donc ça, c'est par exemple extrêmement intéressant. Mais ça peut être intéressant pour notre métier, mais il y a des choses aussi qui sont intéressantes de manière générale. Par exemple, on a pu constater que notamment en 2022, quand il y a eu cette grande sécheresse, ouais, en fait, on a pu constater que les zones du sud qui avaient énormément communiqué, ou les communes qui avaient énormément communiqué là-dessus, ont fait des économies substantielles. On a vu ces communes faire des économies entre 5 et 10% par rapport à l'année d'avant. et alors que les autres restaient à peu près équivalents. Donc on voit l'impact des politiques publiques aussi, ouais, par exemple, sur la gestion de l'eau.
Et vous travaillez aussi avec les communes, parce que ce sont des data qu'elles n'ont pas forcément, enfin elles ont, j'imagine, globalement, mais elles n'ont pas forcément la répartition. Est-ce que ce sont des données que vous confiez aux communes, comment vous travaillez avec les communes?
Alors, pour le... Ce que l'on fait, c'est que notre observatoire, finalement, on le publie, et donc, effectivement, on leur donne accès. On n'a pour l'instant pas été plus loin encore, mais ça fait partie des choses qu'on peut tout à fait envisager avec certaines communes. Là, l'idée, c'était plutôt d'avoir un observatoire national pour voir un peu ce qui se passe, mais bien sûr, on a un certain nombre de partenariats, par exemple, avec certains clients, et on essaye de travailler ces partenariats pour faire parler les données et aider nos clients à faire encore plus d'économies.
Ce qui est intéressant, c'est que grâce à votre analyse et à vos données, il y a eu en 2024, je crois, 1 117 917 fuites d'eau détectées au cours de l'année 2024. Et au total, ça représenterait, si on extrapole à l'échelle nationale, plus de 16 millions de mètres cubes d'eau gaspillée à cause des fuites. Donc grâce à vos données et en anticipant, on pourrait faire des économies pour tout le monde et éviter de gaspiller l'eau, qui est quand même un bien rare, quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette étude, une étude européenne vient d'être menée. On a transmis nos données pour pouvoir justement montrer l'impact des nouvelles technologies et l'intérêt finalement de suivre ces fuites de manière globale. D'abord sur la ressource d'eau, parce qu'effectivement, il faut l'économiser, mais aussi pour les consommateurs. Parce que qui dit fuite chez un consommateur, c'est des coûts, et on réduit aussi ces coûts de manière substantielle.
Parce qu'aussi, grâce à vos décompteurs et vos systèmes d'alerte fuite, vous envoyez des notifications quand il y a des surconsommations, si j'ai bien compris. Ça, c'est une offre de service que vous proposez actuellement et depuis déjà quelques années.
Tout à fait, exactement. L'idée, c'est de dire, c'est que grâce aux nouvelles technologies, il faut que ce soit simple pour l'usager. Et donc, l'usager, à la limite, il n'a rien à faire. Par contre, quand il y a une fuite, il est prévenu. Ouais. C'est ça le principe. Et ça permet donc de vraiment avoir finalement une action qui soit ciblée et qui ait du sens, parce qu'on sait qu'on va agir parce qu'on a une fuite et que ça va nous permettre de faire donc des économies. Et que si on la laisse, malheureusement, ça va coûter.
Et vous ne vous arrêtez pas là, parce que vous avez toujours, pas dire la fâcheuse manie, mais du coup la bonne idée d'être toujours proactif chez Ista. J'ai cru comprendre que vous alliez lancer une nouvelle offre en 2026. D'ailleurs, vous avez gagné le Grand Prix de la copropriété au Salon de la copropriété très récemment, donc félicitations pour ça. Tu peux nous parler un petit peu de l'offre que vous allez lancer en 2026?
Oui, De la même manière que j'ai pu parler donc des nouvelles technologies, des technologies de relève, bien sûr, nous, on s'intéresse aussi sur la base des data aux technologies d'IA. Ouais. Et donc, on a, par notre quand même grande connaissance du métier de l'eau dans les copropriétés, on est en train de développer et on va sortir une nouvelle offre en début d'année, dont l'objectif est finalement de faire en sorte que dans un immeuble, quand on met en place cette offre, on est certain que l'immeuble est surveillé et que tout de suite, qu'elle soit dans les logements ou dans les parties communes, soit détectée. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, grâce à nos compteurs qu'on télérelève tous les jours, grâce aussi aux compteurs généraux des distributeurs avec lesquels on a passé des accords. Donc ça nous permet d'avoir ces informations quotidiennes, de les comparer, et avec des algorithmes d'IA basés aussi sur notre base de connaissances, de pouvoir envoyer des alertes et de pouvoir aider nos clients ensuite, une fois qu'on sait qu'il y a une fuite, à détecter où elle est, quand est-ce qu'elle a commencé, et donc de comprendre beaucoup mieux ces fuites et de pouvoir vraiment les régler. Ça c'est l'objectif de cette nouvelle offre qu'on va lancer début d'année.
Donc l'idée, c'est que vous allez récupérer la data du compteur général qui commence à être équipé de plus en plus en télérelève. Ça prend toujours un peu
c'est
plus
pas
de
tous,
temps.
Mais ceux qui pas sont tous. Équipés en télérelève.
Et du coup, vous allez proposer de pouvoir analyser beaucoup plus finement où est-ce que l'eau circule, où est-ce qu'il peut y avoir des fuites, et permettre d'anticiper un petit peu encore plus de baisse des consommations.
Oui, c'est exactement ça. Et ça apporte aussi un côté sérénité et assurance, parce que on est certain que quand on a cette offre, l'immeuble est surveillé et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise avec une fuite dans les parties communes qui peut derrière se transformer en des montants très très conséquents. Et on connaît beaucoup de clients qui ont eu à faire face à ce type de problème, et cette offre est vraiment là pour faire en sorte d'éviter ces problèmes et de le gérer correctement.
D'accord. Et donc, début de lancement, début 2026, si j'ai
début
pas encore
2026.
De date,
ça, ouais, premier trimestre 2026.
Premier trimestre ouais. 2026, hâte de voir ça, comment ça se développe sur la partie pilotage de l'eau. Alors, vous avez aussi une grosse activité chez Ista où vous optimisez le pilotage des chaudières, puisque vous faites de l'individualisation de frais de chauffage aussi. Hein. Vous êtes sur toute l'énergie et tous les fluides dans le bâtiment. Je crois comprendre que vous avez aussi un projet ou une solution déjà existante sur le pilotage des chaudières. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de cette solution e-pilot, ça ?
Oui, c'est une solution qui s'appelle e-pilot, qui est basée sur un système qui permet, notamment sur des chaudières plutôt anciennes, de plus de 10 ans, de piloter la chaudière à distance en fonction de paramètres de capteurs de température de l'eau, mais aussi d'informations extérieures sur la météo qui permettent de lancer et stopper automatiquement ces installations anciennes.
Ok. Sur n'importe quelle installation ancienne, oui. On peut mettre ce système de pilotage et de régulation.
Exactement. Okay. Et ce qui permet de faire des économies substantielles. Aujourd'hui, globalement, en Europe, donc c'est une offre qu'on a lancée maintenant il y a un peu plus d'un an, un an et demi. C'est une offre qui est basée aussi sur un système d'IA avec un algorithme d'IA qui est un brevet que nous avons déposé et qui permet de faire des économies jusqu'à on voit des économies vraiment substantielles, plus de 30% dans beaucoup de cas, mais au-delà de 15 à 20% de manière assez fréquente et tout simplement sans toucher sur le confort, juste en optimisant le démarrage et l'arrêt de la chaudière de manière automatique en fonction des paramètres que l'on peut avoir. Et ça, c'est la beauté aussi des nouvelles technologies qui permettent de faire un certain nombre de gains, même sur des chaudières qui sont un peu plus anciennes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remplacer sa chaudière, etc., mais ça permet très vite d'avoir des gains aussi sur ce type de chaudière.
Ouais, ça, et voilà un bon usage malin de l'intelligence artificielle, hein, de faire ces scénarios prédictifs, anticiper les fuites. Franchement, ce sera des belles avancées que vous allez pouvoir faire sur le marché de la copropriété et sur tout le territoire. En termes d'IA, il y a aussi un autre projet que vous avez déployé, c'est plus de l'interne. Tu peux nous en parler ou c'est le sujet Arthur ou c'est plutôt confide? On va dire que c'est en exclusivité pour l'interview.
on peut en parler. Oui, on a mis au point notre propre outil d'IA que l'on appelle Arthur, qu'on a mis au point il y a maintenant à peu près un an, qui est en utilisation depuis un an, qui est utilisé par l'immense majorité de nos collaborateurs, qui permet en langage naturel de finalement répondre plus rapidement aux questions de nos clients, de retrouver rapidement les informations. Je te donne un exemple. Mmh. Quand un client nous appelle, parfois, il nous donne l'adresse de son immeuble, et puis parfois on a soit des fautes d'orthographe, soit c'est pas le bon numéro de rue, etc. Ouais. Là, l'IA, elle nous permet directement de retomber tout de suite sur le bon immeuble. Si c'est un occupant qui nous appelle, on le retrouve immédiatement avec des informations qui peut nous donner sans l'obligation que ces informations soient précises, sans aucune référence, simplement avec son adresse, son nom, on retrouve les informations très vite et ça permet simplement à nos collaborateurs d'être beaucoup plus efficaces et de se concentrer vraiment sur la réponse client et plutôt que de retrouver les informations. Donc ça, c'est un outil qui est très utilisé par l'ensemble de nos équipes qui répondent au téléphone, mais aussi par les managers et aussi par nos techniciens qui peuvent retrouver un certain nombre d'informations beaucoup plus rapidement. Donc on a une application aussi sur nos smartphones pour pouvoir l'utiliser.
J'imagine qu'en termes de confort pour les équipes d'Ista, ça doit être le jour et la nuit.
Oui, ça change parce que ça permet notamment sur son smartphone d'aller interroger des données qu'on ne pouvait pas interroger auparavant. Alors, pour faire tout ça, je passe les détails, c'est pas qu'un outil. Hein. Ça demande derrière aussi toute une infrastructure qui a dû être... parce que les data, il faut les mettre à un endroit, etc. Donc on a une infrastructure extrêmement puissante et extrêmement protégée parce qu'on est très très à cheval sur sur toute la sécurité informatique. Mais ça, voilà, on a pu le mettre en place grâce à un travail qu'on fait depuis maintenant quelques années pour pouvoir sécuriser toutes ces données.
J'imagine que tout ça doit contribuer, entre autres, à faire en sorte que vous êtes top employeur depuis plusieurs années de suite. C'est-à-dire que vous avez un niveau d'employabilité ou de bien-être, de satisfaction. Tu peux nous en parler un petit peu de en quoi ça consiste, le fait d'être top employeur ?
Alors oui, c'est pour nous c'est extrêmement important. On est dans un service, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, de proximité. On est dans un service très très humain en fait. Hein. On a des équipes techniques qui rentrent dans les logements. On a des personnes qui répondent au téléphone. On est tout le temps en contact finalement, au contact de nos immeubles. Hein. Il faut visualiser ça. On a 100 000 immeubles en France et en fait notre travail est dans les immeubles. Donc c'est un travail de proximité. C'est un travail aussi extrêmement décentralisé. Nos équipes, elles sont partout en France. Donc pour nous et pour moi en tant que leader, c'est extrêmement important de faire en sorte que ces équipes aient une réelle appartenance aux valeurs de l'entreprise. Et donc, on met énormément d'importance dans tous les processus RH qui nous permettent en fait de rester proche d'eux, de comprendre leurs problèmes, de les résoudre et de faire en sorte que les gens aient envie de rester chez nous. Mmh. Et donc Top Employer, c'est une certification assez complexe à avoir parce que c'est un gros niveau, ça demande pas mal de travail, beaucoup de processus, beaucoup on a tout un audit qui est fait autour de tous nos processus et on fait partie finalement des plus petites entreprises en fait qui sont top employeurs puisque de manière générale c'est plutôt des entreprises de 20 ou 30 000 personnes que des entreprises d'un peu plus de 1000 personnes comme nous, mais voilà, on attache beaucoup d'importance à cela et pour nous c'est important d'être top employeur. Ça fait maintenant 11 ans de suite qu'on est top employeur et on monte à chaque fois régulièrement dans les classements. On met en place de plus en plus d'outils pour aider nos collaborateurs. Et ça, c'est clé. Un dernier point sur ce sujet, pour illustrer aussi les choses, on vient de terminer, là, il y a maintenant 3 jours, notre enquête de satisfaction du personnel, qui s'appelle Ista Voice. Oui. Et tous les ans, on interroge nos collaborateurs pour comprendre ce qu'il faut améliorer, ce qu'ils attendent de nous, ce qui va bien aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont bien. Et ça nous permet d'évoluer et de faire en sorte que nos collaborateurs se sentent vraiment dans l'entreprise Ista.
Écoutés
et qu'ils soient derrière, in fine, plus à l'aise face à nos clients aussi. Parce que voilà, des collaborateurs qui se sentent bien, c'est aussi des collaborateurs qui sont aussi plus efficaces face à des clients qui ont aussi... on le sait, le milieu de l'immobilier, c'est pas toujours facile et donc c'est important d'avoir des collaborateurs qui se sentent à l'aise avec nos clients. Pour nous, c'est important. Ça n'empêche pas d'être très soucieux de la performance de nos. Faut pas confondre les deux.
Ça veut pas dire qu'on est.
Exactement. On est effectivement très soucieux de la performance, mais de la performance avec des équipes qui se sentent à l'aise chez nous. Et c'est, moi, je suis convaincu, la meilleure façon d'être performant, c'est d'être à l'aise. Et donc, c'est ce qu'on fait, je crois, plutôt bien.
Bravo en tout cas pour ça. On arrive bientôt, j'ai une dernière question, ça passe tellement vite avec Laurent, c'est assez incroyable, mais Laurent, tu es partenaire de Maïmo, Ista est partenaire de Maïmo, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, en gros ce que ça vous apporte et surtout pourquoi c'est important pour vous ?
C'est une très bonne question. Alors c'est important pour nous parce que d'abord pour moi il n'existe pas de cluster d'innovation dans l'immobilier tel que Maïmo. Maïmo est un peu le seul qui réunit finalement le métier de l'immobilier, le métier de syndic et aussi le métier de bailleur social, puisqu'on
bailleurs sociaux,
les constructeurs, les assentouristes, en fait finalement tous les partenaires qui sont dans l'immobilier. Donc là, l'intérêt c'est celui-ci, c'est que aujourd'hui finalement avec les datas, avec ce dont on vient de parler, on se rend bien compte que de plus en plus il va falloir qu'on travaille avec des partenaires, et donc pouvoir le faire au sein de Maïmo, avec des partenaires qui sont engagés dans les innovations pour l'immobilier, pour nous c'était juste une évidence. Et donc nous ça correspond aussi à des efforts, parce qu'il faut donner du temps. On a des collaborateurs qui travaillent sur le sujet, mais derrière je pense qu'on peut quand même dire, si aujourd'hui on a eu notre grand prix de la copropriété, c'est aussi parce qu'on fait partie de Maïmo et qu'on a donc été poussé au travers des partenaires, des discussions qu'on a, à innover et à innover aussi de manière juste dans l'immobilier. Donc voilà, ça fait beaucoup de sens pour nous et on est très content d'être partenaire depuis longtemps de Maïmo.
Bah, merci beaucoup Laurent en tout cas pour cet échange. On va suivre avec attention la façon dont Ista contribue à accompagner, à faire diminuer les consommations, à innover, à se réinventer. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, pour tous ces prix que vous avez gagnés qui sont bien mérités. En tout cas, on était ravis d'être avec nous. Un dernier mot peut-être pour la fin.
Bah, moi aussi, écoute, merci beaucoup Corentin. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'est bien de pouvoir le faire comme ça, parler aussi finalement de choses finalement très très humaines. J'étais pas forcément préparé à ça, mais je trouve que c'est plutôt sympa aussi de montrer que voilà, on est des hommes et on a chacun finalement notre histoire de vie. En tout cas, content d'avoir pu faire cette interview avec toi. Merci.
Eh ben, sympa. Merci à toi, Laurent. Merci à toutes les équipes d'Ista. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site, nos applications et sur tous vos agrégateurs de podcasts. On se retrouve donc dans un mois pour une nouvelle interview. À très bientôt.
L'interview MyImo, Corentin Brabant sur Radio Immo.